France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Est-ce qu'il faut parler de la politique pour parler du politique? Est-ce qu'il faut entrer dans le palais, observer le torse du ministre de près? Vraiment? Alors, Visite guidée pour tout le monde, le dernier livre de Nathalie Quintane, traverse une capitale parisienne chaotique et chahutée, aux côtés d'une disciple du peintre David, tout juste atterri du XVIIIe siècle et qui s'adapte plutôt bien à notre décor contemporain. Nathalie Quintane est l'invitée de votre book club pour parler de son livre « Tout va bien se passer ». Vers 15h50, on reçoit un coup de fil grâce au réseau de correspondants étrangers de Radio France. Nous prenons chaque jeudi des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Isor Ias nous appelle de Vienne, où une exposition est consacrée à la vie et à l'œuvre de la poétesse et romancière Ingeborg Bachmann. Et puis à la toute fin de l'émission, on joue, c'est du sérieux. Vos trouvailles de lecture nourrissent le grand jeu des pages musicales, de sorte que nous nous quitterons, comme chaque jour, en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nathalie Quintane.
Bonjour.
Tout va bien se passer, c'est le titre de votre dernier livre paru aux éditions POL. Mais ici, tout commence par bien se passer en questionnant nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire?
Très bien. C'est Madame Marguerite Granet qui m'a appris à lire dans la méthode Beauchère. Ça dira sans doute pas mal de choses à certains auditeurs.
Alors à quoi ça ressemble cette méthode Beauchère? Ou à quoi ressemble Marguerite?
Alors Marguerite, elle a dû quitter l'école à 9 ans pour aller garder des vaches dans le Limousin, ce qui lui a un peu coûté, même si ça permettait de travailler gratuitement pour les adultes. Et quand elle a eu ses enfants et ses petits-enfants dont je fais partie, elle en a profité pour reprendre l'école.
Ça veut dire que vous avez appris à lire avec votre grand-mère alors?
Ouais. Et je me souviens très bien de la méthode Beauchère parce que je l'ai faite de A à Z. Je pense que Marguerite était très rigoureuse. Je me souviens très bien du dernier texte. C'était la chèvre de Monsieur Seguin. Et c'est donc le premier texte que j'ai pu lire, intégralement. Et qui revient, alors bon, c'est peut-être un indice que je donne, mais dans certains de mes livres. Hein.
Ah oui?
Quelquefois, il y a des chèvres qui passent par là. Y compris dans Hamster à l'école, au début, vers le début, il y a pratiquement une citation, mais il faut pouvoir la repérer. En tout cas, c'est une citation de la chèvre.
Est-ce que ça veut dire que ce texte-là, ou la situation de l'apprentissage de la lecture avec Marguerite, votre grand-mère, est donc institutrice?
Pas du tout.
Pas du tout.
Elle était ouvrière.
Donc elle a appris à lire avec la méthode Beauchère, mais à la maison.
Oui, elle était gantière à domicile, enfin d'abord ouvrière. Je crois qu'elle mettait des haricots verts en conserve à un moment. Et puis après, quand elle a eu ses enfants, elle est restée chez elle pour faire des gants. Je l'ai vue faire des gants à domicile. Et donc, en même temps, elle surveillait le travail des enfants et des petits-enfants.
Et est-ce que ça veut dire que si cette chèvre de Monsieur Seguin laisse encore des indices dans vos livres, Nathalie Quintane, c'est que c'est quelque chose, le moment de l'apprentissage avec elle, qui vous a marqué?
Ah, ça me semble évident, mais c'est... Vous savez, ça crée des espèces de souvenirs évidemment brumeux et lointains, puisque ça remonte à je sais pas quel âge j'avais, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais pas exactement. En fait, tout est dans la brume. Et c'est ce genre de mémoire-là qui ressurgit sans qu'on y prenne garde 40 ou 50 ans après. Entre autres, hein, mais dans les livres, et en particulier dans le livre dont on va parler après, qui est en fait, plus j'y pense, complètement nourri par une mémoire sous-marine, souterraine, très ancienne, qui s'est mise à refaire surface comme ça pour au moment où j'écrivais en fait, hein, sans que ce soit conscient en fait.
On va reparler en effet de ce brouillard et du trajet vers le palais, vers le pouvoir, mais en trajet, il y a des choses du passé en effet qui reviennent dans ce livre-là, Nathalie Quintane. Est-ce que vous avez des livres qui sont posés sur votre table de chevet en ce moment?
C'est des piles. Je suis très très heureuse d'avoir pu trouver une bonne traduction des âmes mortes de Nicolas Gogol, que j'avais commencé à lire, mais bon, je vais taire pudiquement le traducteur. C'était pas mal, mais c'était trop informé par Molière, que j'aime beaucoup, mais enfin, bon, les dialogues étaient truffée comme ça de mots pris plutôt dans le théâtre du XVIIe et qui du coup c'était un peu surprenant et ça me déstabilisait. Il y a une très bonne traduction chez Verdier qui est sortie que j'ai pu acheter là, hier et je suis très heureuse d'avoir enfin mis la main sur une bonne traduction.
Donc il y a ça sur votre table de chevet. Il y a quoi d'autre en ce moment?
En priorité. Après, je sors d'une vague de lecture des livres parus chez Amsterdam. En particulier, Le Malentendu, un livre de Assad Haider qui est vraiment intéressant sur la question d'identité. C'est plutôt un essai, donc. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Vous avez plaisir à lire aussi bien une traduction Gogol qu'un essai de la théorie politique. Tout se côtoie sur la table de chevet, Nathalie Quintane?
Tout non, mais pas mal de choses différentes, oui, y compris, oui, de la poésie, de la littérature, des essais, pas mal. Ouais, là j'ai relu, j'ai relu, comme on dit. Mais j'ai plutôt lu les passages que j'avais pas lu d'un livre de Mario Tranti qui est sorti à la tempête il y a déjà quelques années, qui s'appelle De l'esprit libre, je crois. C'est vraiment intéressant. J'y reviendrai peut-être par incidence ou pas du tout, j'en sais rien. Okay. C'est un livre vraiment intéressant.
Sentez-vous libre en tout cas. Est-ce qu'il y a un livre que vous auriez aimé avoir lu à 20 ans ou plutôt qu'aujourd'hui vous offririez à la personne que vous étiez quand vous aviez 20 ans, Nathalie Quintane?
Je crois que quel que soit l'âge de la personne, je commencerai par lui offrir Les Chants de Maldoror. À 20 ans, c'est pas mal.
Pourquoi?
Parce qu'on est encore dans une, je pense, dans une énergie et dans des azimuts adolescents, en tout cas d'enthousiasme et de désespoir d'extrême jeunesse. Je pense encore à cet âge-là, ou en tout cas c'est peut-être le souvenir que j'ai de moi-même, j'en sais rien. Et donc je pense que Les Chants de Maldoror, c'est pas mal pour cette étape-là.
Mais vous ne l'avez pas lu à cet âge-là?
Je l'ai lu un peu avant, et ça, je l'ai lu, je devais avoir 16 ans, et ça a été déterminant, je le dis souvent, ça a été déterminant pour la suite, et si je suis là aujourd'hui, c'est en partie, pas seulement, mais en partie, dû à la lecture de Ducasse.
Ouais. Mais alors peut-être qu'il faut nous en dire davantage, est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte-là, et pourquoi est-ce qu'il a été déterminant?
Parce que il mêle, alors c'est une sorte de prose, hein, il mêle une sorte de décharge violente qui peut être extrême avec un humour dévastateur. Voilà, c'est un peu mon rêve. Je cours après ce livre et puis aussi le suivant, en fait, parce qu'il y a une espèce d'articulation. Il a écrit deux livres, hein, bon, il a pu publier deux livres. Une articulation entre Les Chants de Maldoror et Poésie qui vient juste après, qui est une espèce de contre-Chants de Maldoror, pseudo-contre-Chants de Maldoror, parce que, à mon avis, le soubassement ironique et le renversement est un peu le même, en fait. Hein. Enfin, c'est du faux qui essaye même pas de se faire passer pour du vrai, je crois. Et donc les deux textes ont été importants dans cette manière aussi de prendre à contre-pied le lecteur potentiel, parce qu'à l'époque, je ne sais pas s'il espérait avoir des lecteurs, mais il y a quelque chose de très déstabilisant, un peu, ouais, et qui réveille. Ça m'a vraiment réveillée. Je pense que j'étais vraiment endormie et ça réveille vraiment.
Est-ce que c'est arrivé par la suite, 10, 15, 20 ans plus tard, Nathalie Quintane, de vous faire réveiller par un texte?
À ce point-là, non. Non, mais dès que je tombe sur un livre qui est excitant, quoi, qui est excitant, qui est nerveux, qui donne des nerfs, ça arrive pas si rarement que ça. Ça arrive de temps en temps. Les livres que j'ai cités tout à l'heure, enfin, c'est pas tous les livres que je lis, évidemment, même pas un livre par mois peut-être, mais quand ça arrive, c'est juste, j'allais dire, je suis là pour ça, quoi. C'est vraiment.
Vous cherchez quelque chose dans les livres?
Je cherche à ce qu'ils me saisissent pour que je puisse saisir le temps, me ressaisir aussi, hein, et saisir le temps, l'époque, l'espace, pas forcément comme d'un coup une espèce de repère absolu où on se dirait ah oui c'est ça, c'est là exactement, on en est là.
J'ai compris. Non,
j'ai
c'est
compris,
pas ça.
C'est pas ça, c'est quelque chose de même les essais, je les prends pour la littérature, même il est arrivé il y a quelques mois, je crois, de lire pour la première fois le premier tome du Capital. je l'ai pris comme une comme quelque chose de l'ordre de la littérature hein, et qui était saisissant dans ses descriptions de du monde ouvrier de cette époque-là, dans l'ironie quasi constante de Marx dans ce livre-là, qui est un registre littéraire extrêmement là pour le coup efficace, prenant encore aujourd'hui. Enfin, c'est un livre où je prévoyais pas de dire ça, mais c'est un livre où vraiment sous des noms différents, puisqu'on appelle ça autrement aujourd'hui, le discount, enfin des choses comme ça, nomme déjà en plein cœur du 19e le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est assez en termes d'anticipation, c'est vraiment intéressant, c'est plus qu'intéressant. Voilà, c'est ce saisissement-là qui est à la fois sensible et intelligent, intellectuel, quoi. Les deux en même temps, sans qu'on puisse vraiment faire la part des choses et dire ça c'est plutôt côté sensible et ça c'est plutôt côté théorie ou je sais pas quoi. Non, c'est les deux. C'est le type de livre dans lequel on a les deux en même temps. C'est ça qui est fort.
Est-ce qu'il y a un livre précis avec lequel vous auriez rendez-vous? Pas tout de suite, pas maintenant, mais quand même, il vous attend ou vous l'attendez?
Ah ouais, oui, c'est un livre qui s'appelle « Ça joue ».
Ça joue comme ça, c'est dit « a » et joue comme du verbe
voilà,
jouer.
Voilà, avec a priori plutôt un point d'exclamation de Antoine Humel, H-U-2-M-E-L.
C'est très précis.
Et qui devrait sortir à la tempête, je les recite encore, je crois que c'est en 2024, peut-être début 2024. C'est génial.
Ah mais comme, alors vous l'avez lu alors?
Oui, parce qu'il me l'a envoyé, voilà, on se connaît un peu et j'attendais vraiment qu'il sorte, j'allais dire, un livre un peu long. Et c'est le cas, ça va être le cas. C'est un livre extrêmement, qui est tout le temps drôle, qui joue sur des tas de a priori de références assez classiques, quasi, j'allais dire, à la Bruyère, quoi, ou à des textes assez classiques comme ça, de confession, d'aveux, et qui en même temps essaye de se placer dans l'état d'esprit de l'ado qu'il était quand il avait 13 ans. Et il arrive de manière extrêmement organique à bêler tout ça. Et on sourit à toutes les deux pages, quoi. C'est très drôle et c'est vraiment bien. Donc c'est celui-là que j'attends, mais pour de vrai physiquement, j'allais dire.
Ah oui, parce que voilà. Ça change quelque chose pour vous, de l'avoir pour de vrai physiquement, les livres dans les mains?
Parce que, oui, parce que ça change, parce que je suis attachée à ça, pour des raisons historiques, j'allais dire, d'enfance. La méthode Beauchère, c'est un livre. Je me souviens du papier. Quand j'étais, maintenant je le fais moins, mais je sais que quand j'ai fréquenté beaucoup les bibliothèques et quand j'étais petite enfant, la première chose que je faisais, c'est j'ouvrais le livre et puis je sentais. Et c'est un souvenir assez classique pour pas mal de gens, mais quand j'ouvre un livre de poche ou n'importe et je le sens, je voilà l'imprimerie, hein, le papier, je retrouve des sensations de quand j'avais 7 ans, 8 ans, je sais pas. C'est assez puissant, quoi.
Vous avez toujours beaucoup lu Nathalie Quintane?
Non, j'ai eu une phase compliquée pour diverses raisons entre 18 et 30 ans là, et puis après c'est revenu et la lecture était pas fluide, j'avais des soucis de lecture justement. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à la poésie. C'est plus court, la poésie. Ça passe à la ligne. Et puis après, oui, maintenant, je reprends. J'arrive même à lire les romanciers russes. Alors, c'est pour dire.
On est au début de l'émission encore. Qu'est-ce que vous aimez bien dans le début d'un texte?
Oh, ce que j'aime, c'est le début de ce livre de Beckett, là. Ah, comment il s'appelle? Je trouve que ce début parfait.
Alors, il y a quoi? Parce que ce serait quoi un début parfait, le début parfait d'un livre?
C'est ce que j'ai essayé de faire, donc tout va bien se passer, mais je sais pas si j'ai réussi. C'est un début où on se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est un début qui vous accueille et qui vous chasse en même temps, en fait. C'est un début repoussant, accueillant, je sais pas comment dire.
Oh, bah, c'est
une sorte de filtre accueillant, voilà. Un sas, bon...
On va évoquer votre texte « Tout va bien se passer » paru en cette rentrée littéraire aux éditions POL juste après ça.
Le Tao à tous les étages. France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y règne un certain brouillard dans votre dernier livre, Nathalie Quinta. Non qu'il y ait du brouillard, précisez-vous, mais c'est le brouillard. Dans ces cas-là, la meilleure solution est peut-être d'avancer tout droit. Alors, guidée par la narratrice, accompagnée d'une certaine Lucie Franck, peintre morte au début du 19e siècle, mais cela n'a aucune importance car elle marche très bien, nous avançons vers l'Élysée, ni plus ni moins, le cœur du pouvoir, le cœur de la ville de Paris, qui est jonché de trottinettes et autres détritus, des chasse-neiges se chargeant de déblayer tout ça. C'est le bazar, on ne sait pas tout à fait ce qu'il s'est passé. Cependant, si l'on en croit le titre de votre roman paru en cette rentrée littéraire aux éditions POL, tout va bien se passer. Nathalie Quinta, il est beaucoup question d'espace dans ce livre. Et vous le disiez tout à l'heure, le début a une importance puisqu'on est accueilli, chassé, mais on est surtout accueilli, il me semble. On est même guidé, on est même presque GPSO guidé dans un roman. Comment est-ce qu'en se lançant dans l'écriture de ce livre, vous vous êtes figuré, on va dire, son territoire ?
Sur Google Maps. Je me souviens plus quand je l'ai commencé, mais je suppose que c'était post-confinement, ou pas forcément pendant, mais pas loin. Et je me suis dit que c'était le circuit, ça serait sur le téléphone. C'est dit d'ailleurs dans le texte, hein, de manière... Comme c'est le brouillard dans Paris, elles se dirigent toutes les deux par le téléphone. Et donc, en s'arrêtant sur les lieux qui sont signalés par Google Maps.
Il y a même une capture d'écran et on voit là, une zone brouillée. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est encore plus brouillé que le reste, Nathalie Quinta.
C'est le palais. C'est le palais de l'Élysée, évidemment. Il est pixelisé entièrement. C'est la seule image du livre, mais bon. Et puis la visite du... Parce qu'il y a une visite de... On n'attend pas les journées du patrimoine, on peut visiter l'Élysée dans ce livre. Et la visite, je l'ai faite en allant sur le site de l'Élysée, tout simplement. Donc évidemment qui n'est pas complet, on s'imagine bien. Mais j'ai scrupuleusement respecté salon après salon, entrée après entrée. Je n'ai pas trouvé les toilettes, enfin voilà, même si elles ont une place assez importante dans le livre, je dois dire, sur la fin. Et donc on a comme ça une visite à distance. À distance et en même temps, moi, c'était une visite à distance, on va dire. Pas dans le livre. Dans le livre, on est en plein dedans. Ouais.
Qu'est-ce que ça fait de trouver justement l'espace d'un texte ? Quand est-ce qu'à un moment donné, il a son territoire et on sait qu'on va pouvoir évoluer, écrire, se déplacer dedans ? Et donc, inviter les lectrices et les lecteurs à le faire ?
Là, c'était un peu, je pense que c'était un peu particulier parce que les autres livres se passent plutôt là où je vis, c'est-à-dire dans la campagne ou dans une toute petite ville. Et Paris, c'est différent. Paris, je suis née à Paris. J'y ai pas vraiment vécu, mais je l'ai parcouru dans tous les sens depuis que je suis née. Donc, c'est des espèces de strates comme ça qui sont là. Sans se dire, tout en se disant, tout en se vivant, se revivant chaque fois que je viens, donc quand même quelques fois par an. Et je crois que le livre, en fait, je me demande si en construisant le trajet comme ça du livre, le circuit du livre à distance sur le téléphone, c'était pas un moyen aussi de revenir à Paris à nouveau frais complètement, à zéro, hein, un départ à zéro, parce que
depuis... Mais sans mémoire, vous voulez dire ?
Non, pas sans mémoire, mais depuis trop longtemps, quand j'arrive Gare de Lyon, je me dis, oh, encore une fois, quoi. Alors, en plus, depuis, j'ai une nostalgie un peu bébête du Paris de ma jeunesse, de mon adolescence, où la conciergerie avait pas été décapée, donc tout était noir, là, la tour Saint-Jacques, c'était encore celle des surréalistes. J'ai une nostalgie un peu idiote, peut-être, de ça. Et, je suis non réconciliée avec la capitale, entre autres. Et je me demande si ce livre-là, par ce circuit-là, un peu bizarre, un peu, en réintroduisant une espèce de distance numérique, mais comblée par l'écriture, me permettait pas aussi de parler de Paris autrement et enfin d'y revenir, parce que je voulais pas y revenir. Même quand j'y suis, je veux pas y revenir. Peut-être je veux pas y être d'ailleurs, c'est possible. Ce livre-là, c'était un moyen.
Et puis c'est une façon d'y être et d'y être vraiment, de le parcourir vraiment, d'y être, j'ai envie de dire même sans autorisation et en fait, avec mémoire, tout à l'heure, vous évoquiez très rapidement la façon dont vous repensez à ce texte depuis qu'il est publié et que c'est peut-être un texte où justement il y est question de souvenirs, il y est question du passé. Alors, c'est très présent, on sait juste pas tout à fait très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un bazar, quoi, et les personnages évoluent dans un, on va dire, un décor assez chaotique. Mais dans ce décor, il y a des réminiscences, Nathalie Quintana. Elles ont quoi comme qualité, ces réminiscences, notamment pour la narratrice ?
Moi, je pense que s'appuyer sur cette mémoire, et le personnage de Lucille Franck est cette mémoire, puisqu'elle revient de... C'est une revenante, elle revient de la Révolution. Elle revient, on en parlera peut-être, d'un groupe bien particulier, de peintres. Et ce retour de cette mémoire, c'était un moyen, sans que ce soit explicite, de faire remonter quelque chose de l'ordre du corrosif du passé. Simplement parce que c'est là, on peut pas dire que c'est... Vous savez, on essaie toujours de chercher du possible. Mais le passé, ce passé-là, il est plus que possible, puisqu'il a eu lieu.
Donc il charge le présent d'une certaine manière.
Ouais, sans que d'ailleurs le texte ne parle pas spécialement de la Révolution, hein, mais... Elle est là parce que simplement ce personnage est là et conduit le chemin entre l'Élysée et Chaillot et retour. Et bah voilà, si ça a été possible, c'est que si ça a eu lieu, c'est que c'est possible. Donc c'est même pas, c'est plus fort là. Cette mémoire-là, elle est plus forte que la recherche d'une ouverture ou d'une anticipation ou d'une science-fiction de je sais pas quoi. C'est du sûr, c'est du certain. C'est pas de... Vous voyez, l'incertain, il est porté par la météo, plutôt par ce brouillard qui est le brouillard de l'ambiance générale. Mais après, dans ce brouillard général, il y a quelque chose de certain, c'est cette fille qui a réellement vécu.
Et qui a réellement vécu une révolution, un soulèvement, mais aussi des élans artistiques, une façon de voir le monde et de le peindre. Mais puisque vous parlez de la météo et de ce brouillard, il n'y en a pas, mais c'est le brouillard, Nathalie Quintana. On va écouter une archive de l'écrivain poète Christophe Tarkos qui parle d'un certain brouillard. C'est une archive de 1998.
La pensée se dilue obligatoirement. C'est-à-dire que la pensée, elle fonctionne comme ça, comme dilution. Je vois pas comment la pensée peut ne pas être une nappe de brouillard. Donc, si la pensée c'est une nappe de brouillard, alors tout objet va d'abord se diluer pour après prendre un sens. C'est-à-dire que prendre un sens, c'est d'abord défaire le sens totalement, le mettre en purée, en morceaux, et puis après en petits nuages. Et à partir de là, une fois que le sens est bien enlevé, est bien détaché, bien déconstruit, à ce moment-là, le sens, il peut reprendre. On peut se poser la question du sens une fois qu'il n'y en a plus de sens. Alors, une fois qu'il n'y a plus ce sens-là, on va essayer de remonter la pente et de lui donner un sens. Mais d'abord, ça va être une nappe où tout peut arriver de tous les côtés. C'est ça l'intérêt de la nappe, du petit nuage ou de la sphère, c'est que ça peut arriver de tous les côtés.
Aujourd'hui, c'est le brouillard, comprends-tu ? Non qu'il y ait du brouillard aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui est brouillard. Je crois pas que personne contesterait cette interprétation, qui n'est qu'interprétation, c'est-à-dire qui est interprétation. C'est beau et c'est mélancolique, a dit Lucille. C'est comme si le haut courait tout du long sous les verts. Oh ! On entendait cette archive de l'écrivain Christophe Tarkos sur la radio Alternante, une radio de Nantes, en 1998, au micro de David Christoffel, qui parle de la dilution de la pensée, de la dilution du sens, avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette météo pour votre dernier livre, Nathalie Quintana ?
Je crois que... faut éviter de forcer le sens. Parce que justement, là, en ce moment, enfin depuis quand même pas mal d'années, il y a un sens qui est sans cesse forcé, qui se contredit tout le temps, qui est dans la confusion et qui en même temps se force tout le temps. On est tout le temps dans le forçage quand on écoute. Alors vous allez me dire c'est le cas de n'importe quel discours, mais il me semble que le moment, l'époque dans laquelle on est, peu importe qui en est responsable ou pas responsable, la plupart du temps, tout le monde navigue à vue, hein, c'est le cas de le dire, mais cette époque de forçage. Alors,
qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il y en a trop? Que dans les discours médiatiques, politiques, communs, il y a trop de sens? Il est trop évident?
Ce qui est évident, c'est la confusion générale, une forme de perte des repères immédiatement précédents, quelque chose de cet ordre-là. Et il faut lutter contre, et tout le monde lutte contre avec une espèce d'avec bon des enjeux et des et une stratégie, une tactique plus ou moins cynique ou plus ou moins généreuse ou plus ou moins bienveillante. On est dans ce moment-là un petit peu, et il me semble que quand on écrit de la littérature, en gros, hein, je comprends là-dedans les essais aussi, mais surtout évidemment la poésie et la littérature, faut faire très attention à ça. On est passé par une phase, c'était un peu le cas quand j'ai commencé à thématiser un peu le politique dans Tomate, hein, on est passé par une phase où il fallait dire les choses de manière un peu plus directe. Maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années. Je crois que maintenant, il est temps de faire attention à cette propension, à ce désir qu'on a que les choses soient claires. Qu'elle soit claire, mais par incidence, par inadvertance, par négligence, mais pas volontairement, de la volonté volontaire, quoi. C'est un peu ça que...
Vous voulez dire qu'il y a eu un temps, y compris pour la littérature, où on attendait une clarification, et que votre livre Tomate répondait à cette attente-là, ou en tout cas se proposait de faire une proposition dans ce sens-là, et qu'aujourd'hui, face à cette attente de clarification, voire de transparence, il vaut mieux brouiller un poil les cartes, Nathalie Quintel.
Je sais pas, alors Thomas, je suis pas sûre que ça clarifiait beaucoup de choses, puisque ça les mélangeait plutôt. Il y avait toutes les cartes, mais elles étaient un peu mélangées, un peu brouillées, donc je suis pas sûre que c'était très efficace, quoi. Mais peut-être que c'est ça le mot qui est gênant, c'est l'efficacité. L'efficacité, elle est quand vous êtes dans la rue, quoi. Éventuellement, si vous faites pas trop choper, elle est si vous voulez mettre la littérature dans la rue, vous la taguez, oui. Là, il y a un geste qui permet de faire sortir, alors non pas tout un livre, mais au moins quelques mots. Là, je comprends quand on dit action directe ou quand on dit efficacité du mot, de la phrase. Ça, c'est d'accord.
Presque
c'est d'accord.
Punchline.
Oui, bien sûr qu'on peut, certainement, peut-être de Tout va bien se passer ou d'autres livres, extraire quelque chose et en faire ce qu'on veut. C'est fait pour ça. Après, quand on est dans le cours du texte, les choses. Les choses sont, comment dire, pas directement efficaces. Indirectement efficaces ou efficaces là où vous les trouvez vous, qui sera pas l'endroit où votre voisin va les trouver, qui sera pas l'endroit où dans 2 ans quelqu'un va les trouver, ni dans si le livre existe encore dans 50 ans ou dans un siècle et les gens vont les trouver. Ça dépendra de là où ils en sont et là où en est l'époque.
Donc s'il y a une raison ou s'il y a une intention à ce brouillard, il est plutôt à trouver du côté de la liberté, que chacun puisse dans ce brouillard aller chercher son sens ou sa lecture des choses.
Bien sûr, oui. Tout est dans la main des gens qui lisent, quoi.
Vous y pensez beaucoup, livre. Aux gens qui lisent pendant que vous écrivez, Nathalie Quintane?
Quand j'écris, non, parce que je suis trop dedans, mais je pense toujours à des extraterrestres, ou en tout cas, comme je lis des livres assez anciens aussi, pas seulement ce qui... Je suis une lectrice de Christine de Pizan, entre autres, donc ça remonte à quelques siècles. Moi aussi, je me dis, si je lis Christine de Pizan, pourquoi, je ne compare pas Christine de Pizan, entendons-nous bien, mais pourquoi un lecteur ou une lectrice ne va pas me lire dans 4 ou 5 siècles si la planète est encore là? Et je l'ai en tête. Ouais, j'ai ça en tête, bien sûr.
Ça permet aussi ce brouillard de transformer Paris. Paris est un peu sans dessus-dessous dans ce livre-là. Et on va dire que la couche de brouillard rajoute quelque chose, Nathalie Quintane, ce serait quoi?
La merveille. Le merveilleux. C'est quelque chose que j'ai, je pense pas forcément jusqu'ici réussi à écrire, quoi. Mais il me semble que cette balade dans Paris, qui est le cœur du livre, hein, c'est la deuxième partie, c'est le cœur du livre, c'est le centre. C'est une balade comme, je sais pas, comme on en fait dans les meilleurs moments, qui est joyeuse, qui est la naissance aussi d'une forme d'amitié. Par-delà les siècles, ce qui quand même
entre
pas rien.
Entre ces deux femmes, ouais.
Oui, tout à fait. d'une affection vraiment forte et qui voit sans voir et qui voit au loin un incendie, c'est la boutique du PSG qui flambe et on se dit « Oh, mais tout est merveilleux dans ce moment !»
Parce qu'il y a le brouillard, parce que c'est nimbé de quelque chose d'une certaine manière ?
Oui, parce qu'on avance, on avance dans un temps qui n'est plus notre temps, mais qui n'est pas non plus le passé, ni le futur, ni je sais pas quoi, qui est une parenthèse en fait, quelque chose d'un peu voilà suspendu.
C'est presque un grand sfumato puisqu'il est question de peinture. C'est presque une façon de peindre Paris en nimbant la ville d'un brouillard, mais plutôt littéraire dans ce cas-là, Nathalie Quintane.
Oui, c'est ça. Et puis et à un moment, quand même, ça s'ouvre sur le firmament, il faut bien le dire, sur le ciel étoilé. Donc, on peut difficilement aller plus haut. Alors, c'est un peu
avec une lecture des constellations et un vrai regard vers là-haut.
Oui. Et voilà, le livre est construit comme ça, peut-être autour de cette partie centrale, avec un début un peu sévère comme ça, et un peu épilatoire, on va dire.
On va y venir.
Et puis une fin aussi qui est une fin un peu plus sèche, un peu plus attaquante. Mais le cœur du livre, c'est une balade merveilleuse, enfin, j'espère du moins.
Le Book Club, c'est une communauté de lectrices, de lecteurs, d'auditeurs qui vous adressent des questions. On va en écouter une. Il est justement question d'épilation.
Bonjour le Book Club, bonjour Nathalie Quintane. On s'était rencontrés à Marseille lors d'une lecture que vous avez faite et je vous avais dit que j'écrivais un texte. C'était l'histoire de quelqu'un qui tue le président de la République. Et vous m'avez dit, moi je parle de un ministre qui se fait épiler le torse. Et vous aviez dit, au bout d'un moment, il n'y a plus moyen, il faut qu'on s'en prenne à leur corps. Et en lisant le livre, surtout la première partie, je me suis dit, il y a beaucoup, beaucoup de corps. Et notamment des poils. Vous parlez d'un poil au menton, d'un poil au téton, et puis vous parlez aussi du sif. Autrement appelé sillon interfessier. Et donc je me demandais pourquoi dans ce livre-ci particulièrement, pourquoi tant de poils ? Merci.
Et merci à cet auditeur qui vous envoie, qui vous soumet cette question, Nathalie Quintane. C'est une question qui pourrait paraître anecdotique. Alors non, d'une part parce que les poils y sont nombreux, d'autre part parce qu'il me semble que par la pilosité, par le torse, d'ailleurs presque plus par le torse que par les poils, par les cheveux, vous racontez quelque chose, Nathalie Quintane.
En fait, je suis partie de... Je me souviens très bien de cet auditeur. je suis partie de ce dont on parle en général. Vous savez, je suis assez attachée en fait à ce qui circule, qui deviennent presque des lieux communs ou des choses un peu figées.
Vous en avez même fait des livres.
J'en ai fait des livres et c'était un moment où on parlait pas mal. On reparlait des poils, des cheveux, etc. Et puis, sur la fin du livre, il y a une partie qui est, comment dire, peuplé de gens qui mangent et qui se préoccupent de gastronomie. Non, hein, Top Chef, c'est la partie Top Chef, un peu. Et dans les deux cas, et comme à chaque fois, je m'attache à pousser ça jusqu'au bout, quoi. Mmh. Et la première partie, c'est ça. C'est vraiment faire, non pas couper les cheveux en 4, mais en 100, en 150, en 1000. Et puis, la chose est... Résolu, j'en sais rien, mais le cheveu tient une place capitale dans la résolution de l'histoire, ou en tout cas dans l'avancée de l'histoire à la fin. C'était poussé, hein, vraiment poussé au maximum, ce goût retrouvé pour la pilosité et les poils, voilà.
Mais il est aussi question du torse, c'est-à-dire que par ces poils-là, notamment, il y a du masculin, enfin bon, il y a aussi le... Enfin, moi, je sais pas, j'ai vite rapatrié une photo de Vladimir Poutine, torse nu, en train de pêcher, en train de faire du cheval, enfin, il y a aussi, puisqu'il est question d'être au cœur du pouvoir, au cœur du pays, au cœur du palais, d'aller voir du côté du torse poilu d'un certain pouvoir incarné, Nathalie Quintane.
Il est épilé, le Poutine. Et l'entrée du livre, c'est l'épilation terrible de ce torse de ministre par son secrétaire même. C'est des torses qui deviennent glabres et c'est des torses... au fond absolument pas viril. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il se présente comme il se pense viril, en tout cas quelqu'un comme Poutine, c'est un peu le, je suppose, l'enjeu du truc là, de se faire photographier à cheval, à moitié à poil, et puis vous regardez les photos, mais il a toujours une espèce de treillis qui lui moule les fesses, et c'est vous voyez ce que je veux dire, quoi, ils savent pas ce qu'ils font, c'est ils savent pas ce qu'ils excitent chez un peu tout le monde, ces gens là faut faire attention, et voilà.
Vous attrapez des motifs quand vous dites ça m'intéresse de savoir ce qui circule. Concrètement, est-ce que c'est conscient, Nathalie Quintane? Est-ce que vous attrapez ces motifs-là dans, on va dire, l'air du temps et vous les projetez dans le texte littéraire? Ou est-ce que simplement vous écrivez et ils apparaissent?
Bon Dieu, comment je fais? Ça, c'est compliqué, hein.
C'est ça qui vous intéresse.
En fait, tout est travaillé en même temps, en simultané, j'allais dire. C'est-à-dire que cette histoire de poils, j'ai un moment où je sens que ça vient. Je sais pas comment dire les choses, mais c'est un peu ça. Donc je me rate. L'entrée du livre est important. Le texte, quelque chose vient auquel j'ai plus ou moins réfléchi, mais pas tant que ça. La réflexion se fait dans l'écriture. C'est pour ça que je suis plutôt du côté de la poésie. En fait, il n'y a pas une phase où je vais accumuler des documents, faire des recherches à fond, je sais pas quoi, et puis après je passe à l'écriture. Non, la recherche, la pensée, la théorie, ce que vous voulez, enfin l'essai se fait dans la phrase. Donc tout a lieu en même temps, de manière très très organique. Et quand j'ai enfin chopé l'entrée, une première version qui rate, deuxième, troisième, puis la quatrième ou la cinquième ou dixième, paf, ça, là, il y a quelque chose.
Mais là, c'est l'entrée, c'est vraiment les
c'est l'entrée, c'est l'énergie et le truc là qui je sens qui va tenir. Donc je commence 2, 3, 4 pages, je sais pas l'équivalent, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de poil. Et donc j'ai lu un bouquin sur le poil. Et voyez, et donc la documentation se fait quasi en même temps. Parce que je sais que là, je vais avoir besoin de nourriture ou de je sais pas quoi. Et tout, à ce moment-là, tout ce que je regarde, il y a pas mal d'allusions à des films, en particulier au Nibelungen au début, hein, parce que, évidemment, Siegfried est totalement épilé.
Herbe, ouais.
Il est blond et épilé, forcément. Donc tout ce qui va me passer devant les yeux, tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais vivre, va rentrer comme dans un entonnoir, quoi. Va rentrer dans ce moment où je vais écrire
et entrer dans
général,
le matin
et entrer dans le texte de cette manière-là. Donc à ce moment-là, je me saisis d'à peu près tout. Mais il y a pas d'avant-après. C'est l'avant-après, il est dans la phrase.
Alors on l'a dit, c'est une balade hallucinée, merveilleuse, dans le brouillard, il y a des foyers de feu, il y a des trottinettes, et ces deux femmes marchent dans la ville et se lient d'une forme d'amitié. Lucile Franck, elle arrive d'ailleurs, elle arrive d'un autre temps, elle est peintre et parfois elle doit apprendre des choses sur le monde contemporain et la narratrice la renseigne.
Écoute, Lucile, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Couvre-toi d'abord, enfile une tunique sur une autre, et couvre-toi la tête, c'est par là qu'on attrape froid. Tu ne peux pas vivre de choux, de poireaux, de patates. Prenez des poules au moins. Je ne peux plus sentir tes omoplates à ce point, jusqu'à glisser ma main dessous quand je te serre contre moi et que je te frotte le dos pour te réchauffer. Tu veux un mouchoir? Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau? Excuse-moi, mais ce n'est pas un peu de ta faute si tu n'es pas là en 1830 quand tu aurais 50 ans. À quoi ça tient que ça ait raté? Paris ne bougera pas. Ils disent toujours ça. Ils sont toujours surpris, toujours. Tout est tellement toujours en place pour que ça ne bouge pas. Surtout pas la République. Et tu veux que je te dise? On ne l'a toujours pas, la République. Sauf que le tour de passe-passe, c'est que cette République qu'on n'a pas, elle s'appelle République. La République des banquiers, des actionnaires et des propagandistes. Pour ça que je peux te parler, on se reçoit 5 sur 5. Le portrait que tu as peint là, je le date, 2022-2023. Approche-toi, c'est dans ce coin près de l'office. Tu peux me tenir? J'en ai pour 2 minutes.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On vient d'entendre un extrait de « Tout va bien se passer », votre dernier livre, Nathalie Quintane, paru aux éditions POL, lu. merveilleusement, par Léa Weissgruss. À quoi vous sert ce personnage de Lucille Franck ?
Bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui revient de la Révolution. C'est quelqu'un aussi qui revient de ce qu'on aurait appelé, quelques décennies plus tard, une avant-garde artistique. En fait, quand j'ai fait des recherches sur le groupe auquel elle a appartenu, le groupe dit des méditatifs ou des pensifs, alors je ne sais pas s'ils ont choisi eux-mêmes ils ont peut-être été baptisés comme ça, comme les cubistes ont été baptisés cubistes et les impressionnistes par des gens qui les aimaient pas spécialement. Et quand j'ai un peu lu là sur ce groupe là pendant que je travaillais, pendant que j'écrivais, on en parlait toujours comme d'une secte. Alors que ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, il y a très peu de documents sur eux quand même, pour la raison que j'ai expliquée. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils cochent tous les critères d'une avant-garde classique, les utistes, les hydropathes, ça c'est la fin du 19e, et puis après il y a Dada, les surréalistes, les futuristes, tout ça. C'est vraiment un groupe d'avant-garde typique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la séparation entre la pratique artistique et la vie. C'est des gens donc qui ont été assez suffisamment radicaux pour être chassés de l'atelier de David, squatter un ancien couvent en ruine sur la colline de Chaillot à l'époque, qui était végétarien, qui était bien évidemment révolutionnaire, qui aidait les pauvres. Enfin voilà, on dépeint Naudier qui les a rencontrés, qui allait les voir quand il était jeune. Charles Naudier décrit Lucille comme quelqu'un qui allait en tunique, les cheveux lâchés, aider les pauvres, leur apporter de la nourriture, etc. Et puis c'était des conceptuels aussi. Parce qu'il pensait que réfléchir à la peinture était plus important que peindre. Et c'est allé tellement loin qu'ils ont fini par détruire leur toile. Ce qui fait qu'en fait, il en reste très très peu. J'en ai vu deux ou trois. C'est comme ça que j'ai compris que ce groupe avait existé à Aix, au Musée Granet, à Aix-en-Provence. Mais de Lucille Franck, qui est morte assez jeune, il reste quoi ? On peut voir le portrait de famille là, qui est incroyable. Il reste très peu de choses, très peu de choses. Donc, ce qu'elle porte, c'est, je sais plus la question, mais c'était ça.
À quoi ça vous sert en effet ? À quoi ça vous sert, par exemple, de l'infiltrer dans cette promenade parisienne ?
À pas être seule. Je crois que si je devais répondre, c'est ça, à pas être seule. La littérature, ça sert à ça. Aussi, ça sert à pas être tout à fait seul dans les moments difficiles. Nous sommes dans un moment difficile. Et cette solitude, elle est cassée par ce personnage-là qui vient d'avant. Et cette idée-là, elle vient aussi, même si c'est pas tout à fait la même, de Orlando, de Virginia Woolf. Clairement, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, mais cette idée de traverser les époques comme ça, en se fichant de la chronologie ou de la cohérence, c'est ça.
Et puis vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'humour que vous donnez aux textes que vous lisez, Nathalie Quintane. Évidemment, il est toujours très présent dans les textes que vous produisez. Il se trouve que ce que ça donne aussi, la présence de Lucille Franck dans cette promenade parisienne, merveilleuse promenade, c'est que c'est drôle, c'est qu'elle lui explique des trucs, la narratrice lui explique des trucs. C'est quoi une banane ? Ah bon ? Et il y en a sous d'autres latitudes. Enfin, il y a aussi une façon de raconter le contemporain en s'adressant à quelqu'un qui ne le connaît pas bien. Et ça, c'est drôle.
Oui, mais je pense qu'il y a une... Alors, c'est sûr que les registres de l'humour, je dis pas que je suis passée par tous les registres, mais c'est quelque chose qui est là, qui est, j'allais dire, qui est quasi naturel. Je sais pas comment dire. Et en fait, dans le registre qui suinte ou qui sort ou qui des phrases depuis le début, depuis que j'ai commencé à écrire, il y a quelque chose qui à la fois qui peut de temps en temps être de l'ordre de l'ironie, voire de l'humour noir. Il y en a dans ce livre-là, mais qui garde, je crois, et j'espère d'une certaine manière, toujours quelque chose d'un peu enfantin. Et dans cette manière d'expliquer pourquoi il y a des bananes et
par exemple, une banane. Le début, voilà, c'est ça. Juste Léa qui s'assoit et qui lit le début du texte et le écoute Lucille. Et je le trouve drôle. Enfin, moi, je trouve ça juste écoute Lucille, je trouve ça drôle. Mais je trouve ça pas que en effet ironique ou dixième degré. Drôle aussi parce que c'est tendre. En fait, c'est drôle et c'est tendre.
Oui, c'est vraiment un moment très particulier dans le livre. Et ce que ça permet, c'est ça, c'est d'infléchir l'humour dans un sens qui est celui de la découverte quand on est enfant aussi. et qui était là dès mon premier livre. Hein, les remarques, c'était ça, c'était des petites phrases très concrètes. Quand je marche, il y a toujours l'un de mes pieds qui a disparu derrière moi. C'était des remarques qu'on peut se faire quand on a 8 ans ou quand on a 10 ans. Et c'est quelque chose que je crois avoir toujours plus ou moins gardé, parce que c'est avec ça et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et évidemment, j'ai jamais cherché à m'en débarrasser, puisque c'est ça qui me fait écrire.
Oui, puis ça indique un certain rapport au monde, ça indique une façon de le regarder. Je trouve que ça indique un premier degré qui n'empêche pas du tout ni la distance ni l'humour, Nathalie Quintane.
Bah, c'est toujours stupéfiant quand même. Enfin, c'est toujours très étonnant. Hein.
De vivre, vous voulez dire ?
De vivre dans. Dans le monde, pas seulement en France, mais dès qu'on se déplaçait pareil, on se dit mais c'est pas possible, c'est ça, c'est pour de vrai, les bras m'en tombent. Alors pour positivement ou des fois négativement, mais les deux choses c'est ça, les bras m'en tombent. D'où peut-être le côté bah il y a plus de bras.
En effet, il n'y a plus de bras, il n'y a presque même plus qu'un seul torse. À la fin, et sans en dévoiler, il est beaucoup question de nourriture. Nathalie Quintane, on a commencé par raconter ce que nous disaient les poils dans ce texte-là. Qu'est-ce que nous dit l'aspect grande bouffe, quasi, comment ça s'appelle quand les humains mangent d'autres humains ?
Anthropophagie.
Voilà. Mmh. Qu'est-ce que ça nous raconte dans Tout va bien se passer ?
Oh, c'est pas une scène d'anthropophagie,
non.
Quand même.
Hein.
C'est, ils le nourrissent, le torse, avec une forme de bienveillance terrible. qu'est-ce que ça nous dit ? Bah, c'est ce moment où peut-être le côté, cette fois-ci, burlesque ou grotesque du texte est le plus évident. Ça y va, hein, ça y va, comme dans un Ferrari, en fait.
Voilà, hein, pas avec beaucoup d'économie, on y va, quoi.
Non, on y va à fond dans la cuisine bulgare, on y va en fond. Voilà, c'est une espèce de lâcher, et en même temps, c'est une partie assez dialoguée qui est stylistiquement assez sèche, ou en tout cas un peu plus sèche que la balade merveilleuse. Et alors l'idée, c'était de, quand même, ça je l'ai eu dès le départ, faut le dire, de ne faire mourir personne. Bon, donc ça se finit en... Enfin bon, voilà, peut-être une grosse gastro, mais bon...
Ça se finit par on a faim quand même, hein.
Ouais, on a toujours faim.
Tout va bien se passer, c'est le titre de ce livre qui est paru aux éditions POL. Merci beaucoup, Nathalie Quintane.
Merci à vous.
D'être venue ici pour nous en parler. J'ai une annonce à faire, parce que France Culture a lancé une nouvelle édition de son prix littéraire, le prix du roman des étudiants. Alors la spécificité, c'est que le jury est composé exclusivement d'étudiantes et d'étudiants. Si vous souhaitez participer et devenir juré à votre tour, eh bien c'est très simple, il faut se rendre sur le site de France Culture, à la page dédié au prix. Et puis, vous retrouvez toutes les informations, ainsi que le lien vers la plateforme d'inscription. Pour intégrer le jury, il faut rédiger une critique écrite ou une vidéo du roman vraiment de votre choix. Ça peut tout à fait être en dehors de la sélection des 5 romans qui sont retenus pour le prix du roman des étudiants de cette année. Cette clôture des candidatures a lieu le 22 octobre, donc il faut envoyer tout ça avant le 22 octobre. On récapitule, vous trouverez toutes les informations pour devenir juré du prix du roman des étudiants en vous rendant sur franceculture.fr. On mettra aussi le lien sur la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est 15h49 et avant d'aller retrouver Isor Ias en direct de Vienne en Autriche, je rajoute à la liste des livres que vous pouvez aller acheter en librairie, donc on a parlé de Tout va bien se passer, mais aussi Club Bizarre aux éditions Pli, Nathalie Quintane, Stéphane Bérard, on mettra les références sur le site internet du Book Club. Comme chaque jeudi à cette heure-ci, nous quittons la France pour prendre des nouvelles de la littérature à l'étranger. Nous partons cet après-midi en Autriche, où nous retrouvons à Vienne notre correspondance Isor Ias. Bonjour Isor.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann, parce que le 17 octobre prochain marquera le 50e anniversaire de sa disparition.
Oui, et un demi-siècle après sa mort tragique à Rome, à l'âge de 47 ans, son influence reste immense en Autriche, en particulier dans la ville où elle est née et où elle repose, Klagenfurt. La maison dans laquelle elle a grandi est d'ailleurs en train d'être transformée en musée. Il devrait ouvrir l'an prochain. Ingeborg Bachmann est tout simplement un mythe aujourd'hui. Devenue célèbre très jeune par ses poèmes, elle fut aussi une grande auteure de prose. Son œuvre, aussi subtile que singulière, régulière ne se laisse pas résumer. L'expérience de la Seconde Guerre mondiale y joue bien sûr un rôle crucial, tout comme la recherche d'une langue nouvelle. La prix Nobel de littérature, Elfriede Jelinek, le souligne parfaitement. Bachmann, écrit-elle, par des moyens radicalement poétiques, a décrit la continuation de la guerre, de la torture, de l'anéantissement dans la société, à l'intérieur des relations entre hommes et femmes.
Et cette influence, Isor, on la constate à travers les nombreux événements qui mettent en ce moment Ingeborg Bachmann à l'honneur en Autriche.
Oui, outre la publication de livres sur la poétesse, un film actuellement à l'affiche lui est consacré. Son grand roman Malina est également joué dans un célèbre théâtre viennois dans une énième adaptation. Et il y a surtout une importante exposition hommage au musée de la littérature de Vienne. Exposition passionnante qui rassemble de nombreux manuscrits de Bachmann, ainsi que plusieurs lettres échangées avec le poète Paul Celan et l'écrivain suisse Max Frisch. Organisée de manière thématique, l'exposition permet de redécouvrir certains textes de l'auteur, sondant la guerre, la dépression, la relation entre les sexes aussi. Une œuvre d'une grande modernité, selon la commissaire Kerstin Putz, qui explique en partie, selon elle, l'aura de la poétesse aujourd'hui.
Sa littérature a quelque chose d'intemporel. On peut toujours s'y référer aujourd'hui parce qu'elle traite de la constellation des relations, de modèles humains fondamentaux qui resteront toujours actuels. Et puis, sa littérature est insondable, elle n'est pas simple. Il y a toujours plusieurs niveaux de sens et cela nous pousse à nous pencher sur son œuvre de manière toujours nouvelle.
L'exposition fait ainsi référence à certaines œuvres d'artistes contemporains qui sont autant d'interprétations de celles d'Ingeborg Bachmann. Il y a par exemple cette peinture d'Anselm Kiefer, dans laquelle l'artiste allemand traduit magnifiquement dans son langage à lui ce vers de la poétesse. J'ai vu le pays du brouillard, j'ai mangé le cœur du brouillard.
Mais évidemment, c'est dans le domaine littéraire, Isor, que l'influence de Bachmann est la plus palpable aujourd'hui.
Oui, de nombreux écrivains revendiquent son influence, en particulier, pointe Kerstin Putz, de grandes écrivaines autrichiennes, Elfriede Jelinek bien sûr, mais pas seulement.
Anna Bahr ist eine Autorin, die sich immer wieder auf Bachmann bezieht. Maya Haderlapp.
Anna Bahr, par exemple, fait souvent référence à Bachmann, tout comme Maya Haderlapp, une autre grande autrice autrichienne. C'est une référence pour beaucoup, y compris dans la littérature internationale. Régulièrement paraissent des romans qui s'intéressent à Bachmann. Quant à la recherche sur son œuvre, elle reste extrêmement importante en Autriche et dans l'espace germanophone. Des textes inédits de Bachmann, issus de sa succession, sont maintenant publiés, ce qui déclenche naturellement une nouvelle vague dans la recherche. L'intérêt reste très fort, nous le constatons ici, car beaucoup de chercheurs et d'étudiants viennent pour consulter ces archives.
Et le succès de cette exposition le prouve également. Outre des Autrichiens et des Allemands, les visiteurs viennent de France, d'Israël, mais aussi d'Amérique du Sud. L'œuvre de Bachmann transcende les frontières et on ne peut que vous encourager à lire ou relire cette immense écrivaine.
Un très grand merci, Isor Ias. On peut réécouter cette chronique Lecture sans frontières sur franceculture.fr et puis se procurer, pourquoi pas, des traductions vers le français de l'œuvre d'Ingeborg Bachmann. Il est l'heure de jouer à cette heure-ci dans le Book Club. Tous les jours en fin d'émission, on joue au grand jeu des pages musicales. J'en rappelle le principe, vous êtes en train de lire tranquillement, vous repérez l'évocation d'un air musical. Par exemple, j'avais repéré Dalida dans votre roman, Nathalie Quintane, entre autres. Vous faites une photographie du paragraphe ou alors vous le reproduisez par écrit et vous nous l'envoyez ou bien par l'Instagram de la communauté du Book Club ou bien à l'adresse mail suivante, lebookclub@radiofrance.com. Nous, on fait toute une collection de vos trouvailles de lecture et chaque jour, on pioche dedans pour terminer l'émission en musique. Aujourd'hui, nous devons la trouvaille du jour à Aloïse, cette auditrice qui a choisi un extrait d'Un chien à ma table, un roman de Claudie Hunsinger, paru aux éditions Grasset en 2022. Par l'édit de Nantes, 1712, Louis XIV avait favorisé la dispersion des anabaptistes. Pas vraiment un ghetto ni une civilisation fermée, mais un groupe en marge, à l'écart des villages. Ils enterraient leurs morts dans leurs propriétés. Et ça, Craig, il l'avait retenu. Je ne sais pas pourquoi ce soir-là,
rêvassant à chercher l'endroit où j'aimerais creuser ma tombe à l'avance, alors que je n'écoutais plus de musique depuis longtemps, aimant de plus en plus celle du silence, j'ai ouvert mon ordinateur, l'ai installé sur la table de la cuisine, y ai cherché YouTube et choisi un concert où la beauté géorgienne Katia Bounatcheveli entrait en scène, s'inclinait, puis s'asseyait à son piano et se lançait avec une insolence décorsetée, à la fois animale et enfantine, celle de Betty Boop en personne dans la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt. Betty Boop est née des doigts de Jis Natwick le 9 août 1930. J'ai juste dessiné un petit chouin, un petit chien à qui j'ai rajouté des jambes de femme, et ce qui est devenu par la suite des boucles d'oreilles n'était d'abord que de longues oreilles. Donc, la Rhapsodie hongroise. Et soudain, dans la colline des bois bannis, une voix s'est élevée, lançant de grandes, grandes vocalises. Aou! Aou! C'était ma chienne. C'était Yes. Au son aujourd'hui, c'était Timothée Hubert à la réalisation, Somaya Dabesh. Un grand merci, Somaya. Références et titres des livres de Nathalie Quintane sur franceculture.fr à la page du Book Club. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Didier Pinault, Anouk Delfino et Oriane Delacroix. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast via l'application Radio France. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi sur France Culture.